Quel est l'état des forêts de notre région, Isabelle Duché?
Ce sont les vacances et nombreux sont ceux qui aiment se promener en forêt, mais les forêts de notre région sont-elles en bonne santé? Nous posons la question ce matin à Antoine de Boutray, directeur de l'agence Pyrénées-Gascogne de l'Office national des forêts. Bonjour monsieur.
Bonjour à tous.
L'agence Pyrénées-Gascogne donc de l'ONF hein, gère les forêts communales et domaniales de trois départements de notre région, le Gers, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. Il y a donc trois types de forêts, on l'imagine bien, celles qui sont en plaine, celles qui sont en montagne et puis les forêts en zone périurbaine. Alors, il y a une préoccupation commune à ces trois types de forêts, c'est de trouver le juste équilibre entre leur exploitation et l'accueil du public. L'exploitation, c'est vous me disiez, hein, c'est la majeure partie du travail de l'ONF. Comment vous conciliez ces deux enjeux?
Alors, effectivement, tout l'enjeu pour l'Office national des forêts et, j'allais dire, pour la foresterie à la française, ça va être de concilier l'exploitation forestière avec l'accueil du public, mais aussi la protection de la biodiversité. Et, toutes ces forêts ont un point commun, c'est qu'elles ont un plan de gestion qui, d'une part, analyse le milieu naturel, c'est-à-dire qu'on va essayer de décrire de quoi sont constituées toutes ces forêts, puisqu'en fait, dans ces forêts, on a une multitude d'espèces d'arbres différentes, et donc avec des règles de culture différentes. À partir de cet état des lieux, et puis des besoins des propriétaires, que sont les communes ou l'État, on va essayer de définir une programmation d'intervention qui respecte le cycle des forêts. Et donc cette garantie, j'allais dire, de gestion durable est validée par le préfet de région pour ce qui concerne les forêts communales et le ministère de la Transition écologique pour ce qui concerne les forêts domaniales.
D'accord. Vous avez parlé de différents types d'essences. Qu'est-ce qu'on a comme essence dans notre région?
Alors, si vous êtes dans les Pyrénées, voyons, si vous montez à l'Hospice de France au-dessus de Luchon, vous verrez avant tout des forêts de sapins et de hêtres. Ça, c'est la composante caractéristique des forêts pyrénéennes. Beaucoup de hêtres et puis du sapin aux plus hautes altitudes.
D'accord.
Et puis, au fur et à mesure que vous allez descendre et remonter la Garonne vers Toulouse, vous allez découvrir des forêts de piémont puis de plaine avec la disparition progressive du sapin et du hêtre qui poussent plutôt en montagne. Et vous allez voir apparaître à la place, si je puis dire, du chêne, du châtaignier et puis toute une multitude d'autres essences que les forestiers ont pu introduire d'ailleurs dans il y a une cinquantaine d'années. On parle de peuplement de résineux où on a essayé de planter du pin, du douglas, enfin, d'autres essences qui sont utiles à la société.
Oui, c'est ça, parce qu'il faut que l'exploitation soit rentable et donc que le bois qui pousse dans ces forêts puisse être vendu et trouve une utilité au niveau commercial, si je peux dire.
Exactement. Et donc nous, on va s'attacher à, d'une part, faire pousser des essences d'arbres qui peuvent pousser dans nos climats actuels et futurs, mais qui ont aussi une utilité pour la société, avec un objectif prioritaire pour nous, c'est de faire pousser des arbres, j'allais dire, à longue durée de vie, de façon à valoriser le bois au mieux possible d'un point de vue économique. On parle de bois d'œuvre. Si je prends les forêts pyrénéennes, pour le sapin, ça va être de faire pousser des beaux sapins qui vont être transformés ensuite en charpente pour la construction.
Et pour ça, pardon de vous couper, un sapin, il doit avoir quel âge?
Ah, on fait pousser des arbres sur plus d'une centaine d'années, on va dire, en moyenne, de façon à avoir des arbres de grande dimension qui peuvent être transformés soit en poutres, soit en planches.
D'accord. C'est vrai que je le disais en introduction, il y a les vacances de Pâques. Hein, c'est une bonne occasion de découvrir les forêts publiques gérées par l'Office national des forêts. Quels conseils donneriez-vous, Antoine de Boutray, aux promeneurs pour protéger les écosystèmes tout en profitant évidemment de la beauté de la nature?
Alors, vous verrez dans toutes les forêts publiques que vous avez des chemins, j'allais dire chemins balisés. Le premier conseil que je pourrais donner aux auditeurs, c'est de rester sur ces chemins et de profiter du spectacle de la nature depuis ces chemins. On est au printemps, il y a une petite règle qui s'applique, c'est qu'au printemps, du fait de beaucoup de nidification, c'est le moment des naissances, hein, et aussi le gibier, c'est le moment où les petits chevreuils vont naître et les oiseaux vont couver et parfois au sol. Du coup, si vous venez avec votre chien, tenez votre chien en laisse, puisqu'il va garder son instinct de chasseur et il pourrait courir après ces animaux, ce qui n'est pas quelque chose qu'on va recommander. Voilà.
D'accord.
Ça, c'est le premier conseil. Donc, restez sur les chemins. Si vous pouvez observer la nature plutôt que de l'accueillir, c'est bien, puisqu'on profite des fleurs sauvages, c'est super. Vous pouvez en ramasser quelques-unes, bien entendu, si, pour les espèces les plus communes, si vous voulez faire un bouquet. Mais voilà, restons raisonnables aussi, oui. Puisque ces fleurs, elles ont une utilité. C'est le printemps aussi pour les abeilles. Donc, elles se réveillent depuis un long hivernage. Elles ont besoin de reconstituer des réserves. Et donc, voilà, elles sont utiles à tout le monde. Donc, il faut, d'une façon générale, partager l'espace et aussi avec la biodiversité.
Oui, bien sûr. Alors, justement, cette biodiversité, elle est propre, finalement, à chaque type de forêt. Si on prend les forêts de montagne, quelles sont les particularités ?
Alors, les forêts de montagne vont peut-être être celles où on va retrouver la biodiversité, je mets des guillemets, la plus extraordinaire. C'est-à-dire que c'est là où on va trouver le plus d'espèces protégées. Et c'est pas pour rien que c'est sur ce secteur-là qu'a été créé le parc national des Pyrénées dans les années 60. Et donc, vous allez retrouver donc, des espèces de rapaces protégées. C'est là où vous allez retrouver l'ours des Pyrénées. Et puis, des espèces d'animaux plus discrètes. On parle du desmant, qui est un petit rongeur qui vit dans les torrents. Le calotriton, pardon, qui est un petit reptile qui, pareil, vit dans les torrents de montagne. Voilà, donc c'est là, en forêt de montagne, vous allez trouver les espèces les plus rares, j'allais dire. Mais aussi les espèces peut-être les plus sensibles, du coup, au dérangement et probablement aussi au changement climatique avec la montée générale des températures.
Et justement, vous avez vu, avec cette montée des températures, vous avez vu des animaux disparaître ?
Non, forêt. Aujourd'hui, on ne voit pas d'érosion forte de la biodiversité en forêt. Et j'allais dire, je touche du bois pour que ça puisse continuer longtemps comme ça. Mais on a la chance on dit qu'en les forêts de métropole accueillent à peu près 75% de la biodiversité de métropole. Et on voit tout, l'effet refuge de ce genre d'écosystème qui accueille du coup une biodiversité assez importante, qu'elle soit extraordinaire comme dans les forêts des Pyrénées ou ordinaire comme dans nos forêts de plaine. Vous avez une biodiversité très intéressante et très importante jusqu'aux portes de Toulouse. Quand vous allez en forêt de Boucone, si vous allez là vous balader pendant ces vacances, vous verrez plein de fleurs différentes, plein de plantes différentes. Ça participe également à la biodiversité.
Oui, bien sûr. Oui. Les récentes pluies qu'on a eues, très abondantes, et puis toutes ces chutes de neige, est-ce qu'il y a un impact sur la forêt ? Est-ce que c'est bénéfique et à long terme ?
Alors effectivement, toutes ces pluies de cet hiver ont permis de reconstituer, j'allais dire, le stock d'eau dans les sols. Pour nous, humains, c'est important puisque cette eau, elle va descendre progressivement et reconstituer les nappes phréatiques. Et donc, pour l'eau potable, c'est une bonne nouvelle. La fonte des neiges va continuer pendant encore plusieurs semaines. Et donc, ça va continuer d'alimenter les sources. Ça, c'est bon pour nous aussi. Et puis, pour la forêt, on va dire que le stock d'eau, j'allais dire, dans les sols, disponible pour les racines, et optimum, et donc on a un printemps très favorable, et on espère que du coup, cette eau va rester encore longtemps, et le plus longtemps possible dans les sols, pour alimenter les arbres qui vont devoir faire face à des températures estivales de plus en plus importantes dans les prochaines années.
Oui, et ça, ce bénéfice, c'est aussi valable pour les forêts de plaine.
Tout à fait. Il a plu partout en France et donc cette eau, elle reste stockée dans les sols. Et on a une diversité de forêts qui sont aussi liées à une diversité de sols qui est très importante dans notre région. Donc on a des sols profonds qui gardent beaucoup d'eau. On a des sols plus superficiels qui gardent moins d'eau. Et donc on a des forêts différentes qui poussent sur ces sols différents.
Comment vous faites pour entretenir une forêt de montagne ? Parce qu'il y a effectivement cette altitude, ce dénivelé. C'est difficile d'accès. Vous me disiez juste avant cette interview que parfois c'était compliqué justement de l'entretenir parce qu'il y a une courte période où vous pouvez intervenir. Comment vous faites précisément ?
Alors on va d'une certaine façon spécialiser l'espace et on va répartir j'allais dire les différentes parcelles d'une forêt de montagne en fonction du rôle qu'elles peuvent jouer. C'est sûr que les parcelles les plus facilement accessibles dans lesquelles on a pu créer des chemins ou des pistes vont pouvoir être exploitées plus facilement. Et puis il y a des zones rendues qui sont inaccessibles, qui vont avoir un autre rôle, un rôle de protection, notamment contre les chutes de blocs si vous allez vous balader au Tourmalet ou au-dessus de Luz Saint-Sauveur, vous allez prendre des petites routes de montagne pour passer le col du Tourmalet. Bon, vous verrez de part et d'autre des grandes forêts qui ne sont pas exploitées ou pas beaucoup exploitées, mais qui ont un rôle important puisqu'elles vont retenir les blocs qui vont se décrocher du fait de l'érosion de la montagne. Ça, c'est une première façon de faire. Et puis, de toute façon, on en parlait à l'instant, un rôle important en termes de biodiversité. Et donc, ces zones qui restent inexploitées, elles ont un autre rôle, c'est de jouer un rôle de réservoir de biodiversité qui va nous être bien utile dans les années à venir pour adapter la forêt au changement climatique.
Oui, bien sûr. En ce qui concerne les forêts de plaine, quels sont les défis auxquels vous devez faire face ?
Alors, les forêts de plaine, on a une diversité d'essences plus importante qu'en montagne. Hein. On a du chêne, du châtaignier, du robinier, des résineux diversifiés. On pense que les effets du changement climatique se font d'ores et déjà sentir, avec des étés plus chauds et plus secs, avec du coup des signes de dépérissement qui vont commencer à apparaître sur la forêt. Et donc,
quels sont les arbres qui ne résistent pas à cette chaleur intense?
Alors, les arbres qui sont les plus sensibles à la chaleur et à la sécheresse l'été, on va retrouver le frêne, qui est un arbre qui pousse plutôt au bord des cours d'eau parce qu'il a besoin de beaucoup d'eau.
Oui.
Et qui, en plus, souffre d'une maladie depuis plusieurs années qu'on appelle la calarose, qui a pu se développer dans notre région avec l'augmentation des températures. D'accord. Et donc, c'est vrai qu'au-delà des effets température-sécheresse, bien souvent, le changement climatique permet à tout un cortège de pathogènes de prospérer puisque les hivers sont plus doux également. Et donc, des insectes ou des bactéries qui ne pouvaient pas survivre à des basses températures, aujourd'hui peuvent...
Et oui, elles prolifèrent, là.
Voilà, ouais. Le frêne est plutôt une essence qui a occupé une part importante de nos paysages, notamment, je pense, au Gers, dans nos paysages bocagers, qui aujourd'hui, du fait de cette maladie, est plutôt en régression.
Et donc, vous avez prévu d'autres essences, vous avez planté d'autres arbres pour résister au changement climatique en plaine?
Tout à fait. On a une stratégie qui, on va dire, ne met pas tous ses œufs dans le même panier, puisqu'on va s'appuyer d'une part sur la biodiversité et puis tous les ressorts un peu secrets qu'elle contient. Hein. Et donc, on fait aussi confiance, d'une certaine façon, à la diversité génétique qui existe au sein des forêts. Quand vous prenez le chêne, c'est des arbres qui poussent sur plus de 100 ans, largement plus de 100 ans. Et donc, on a une diversité génétique importante et on pense que du coup, c'est un facteur favorable pour adapter ces chênes au changement climatique. Ça, c'est une première façon de faire. Donc, il faut continuer à renouveler nos forêts de façon à avoir une diversité génétique plus importante. Et puis, effectivement, quand on va se poser la question de la plantation, parce qu'on n'a pas d'essence adaptée sur nos parcelles, il va falloir qu'on réfléchisse à des essences qui seront capables de pousser dans un climat futur plus chaud et plus sec. Et oui, c'est là qu'on va pouvoir éventuellement tester des essences différentes qu'on va aller chercher plutôt, vous voyez, sur le pourtour méditerranéen.
Oui, c'est ça, oui, pour pouvoir adapter à ces nouvelles températures.
Exactement.
Merci beaucoup Antoine de Boutrey. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Agence Pyrénées-Gascogne de l'Office national des forêts. Merci de nous avoir présenté tout votre travail que vous faites pour les forêts dont nous sommes bien contents de bénéficier.
Merci à vous.